Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez pour une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. C'est la première de l'année, la première du mois de janvier, donc bonne année à toutes et à tous. Je reçois quelqu'un d'important dans le monde de la bande dessinée, quelqu'un qui est un éditeur de magazines, quelqu'un qui a un projet dont on va parler aujourd'hui, un projet très important. Je suis avec Frédéric Bosser. Frédéric, bonjour, je suis vraiment ravi de faire cette première émission avec toi. Première question qui ouvre toutes les bulles d'histoire, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ?
On va essayer de résumer. Père fils d'ingénieur, mère au foyer. J'ai fait toute ma jeunesse près de Genève à Ferney-Voltaire dans un lycée international. Bac scientifique, sup spé, doc de maths. Et là, je rencontre à Lyon, au moment du DUG, des auteurs de bande dessinée comme Edmond Baudouin, William Vance, qui viennent dédicacer à Libre Expérience. Moi qui étais passionné de bande dessinée par mes parents, dès qu'on venait à Paris, on allait à la Fnac et on repartait avec un chariot complet. Et je classais mes BD à l'époque. Je ne sais pas ce qu'était l'édition originale et tout ça, mais on va dire voilà. Je faisais en sorte d'avoir tous les Ricochets, tous les Michel Vaillant, tous les Blueberry et tout ça. Donc après, la rencontre de ces auteurs-là, les voir dessiner sur mes albums, mes personnages, ça m'a fasciné. Et là, je me prends de passion, je deviens ami avec certains. Je commence à écumer tous les festivals. Et puis évidemment, les premiers à Angoulême, il y a 25 ans, je pense, un truc comme ça. Et là, voilà, il y a vraiment la rencontre avec les auteurs, la passion et... Et je commence à voir si je peux travailler pour des journaux pour défendre tout ça. À l'armée, je rencontre un gars qui me dit « Mon frère est passionné de BD, il bosse pour un commissaire-priseur. » Je le rencontre et je découvre l'IESA qui est une école d'art. Et je m'inscris en même temps à l'école d'art. Je finis de sympathiser avec le frère du copain qui bossait chez un commissaire-priseur qui me dit « Pourquoi pas monter des ventes aux enchères ?» Et donc, on décide de... Moi, tout de suite, je dis « Je ne veux pas vendre de planches, que je ne suis pas spécialiste, je peux vendre des dessins. » Et donc, on fait la première vente des illustrateurs à Paris. Alors, de mémoire, c'est 91 à 94. Enfin, en gros, c'est ces zones-là. Et là, je rencontre Olivier Maltrait, qui dirige aujourd'hui Canal Béné Magazine, qui me dit pourquoi on ne monte pas un fanzine ensemble. Et on décide de lancer des BD, donc les dossiers de la bande dessinée, en hommage au cahier de la bande dessinée qu'avait fait Glénat à l'époque. Et on ouvre avec Franquin. Et on fait la revue qui est trimestrielle. Et on enchaîne avec Manara, Franck P, Philippe Franck. Et puis, au bout de 4-5 ans, moi, j'avais envie d'aller en kiosque. Je suis un fan du kiosque parce que c'est vrai que je me suis formé là. Je passais des heures dans les magasins de journaux, enfin dans les grandes surfaces que là, on peut lire, à lire tout ce qui me tombait sous la main. Et là, je rencontre Benoît Habert et Philippe Portier avec qui on s'associe pour continuer le magazine en kiosque, en gros, et ouvrir la première galerie qui va être rue Créteil, dans le 9e. Puis je décide d'arrêter la galerie parce que voilà, j'avais fait le tour. Je trouvais qu'il y a une relation un peu compliquée avec les auteurs à ce moment-là où il y avait l'émergence de toutes les galeries, Maguen et compagnie, où ça faisait qu'il y avait une espèce de bataille entre ceux qui avaient le meilleur pourcentage et machin, donc ça ne m'intéressait plus. Et donc, je revends mes parts de la galerie, je garde seul des BD, je continue à développer des BD. Sur ce, Bodoy s'arrête. Et donc, je propose pour que des gens puissent continuer à lire des prépublications de créer l'immanquable.
Ce qu'il faut dire, c'est que DBD, c'est un magazine, on va dire, d'actualité de la bande dessinée, avec un cahier critique, mais avec beaucoup d'interviews, des portraits, des articles aussi un peu historiques sur l'histoire de la BD. Et que l'immanquable, ça, c'est un peu le complément de DBD. Tu prépublies des albums en 3 feuilletons, ou 4 feuilletons, je ne sais plus très bien, mais en tout cas en feuilletons. Ouais. Et les deux sont mensuels. Et ça existe et vit évidemment toujours.
Des BD plus 10 numéros par an, ce n'est pas tout à fait mensuel. Il y a 2 numéros doubles été et hiver. Et immanquable, c'est tous les mois, en effet. Depuis 4 ans maintenant, moi, j'ai toujours passionné par les trucs transversaux et toujours liés au dessin. Parce que moi, le dessin, c'est toujours été ma passion. Et donc, je décide de créer... je discute avec ça avec Jean Dufault. Et il me dit, fais ça avant tes 50 ans, après, tu n'auras plus d'énergie. Donc, les 50 ans se pointaient 1 ou 2 ans après, et donc je décide de lancer les arts dessinés qui, lui, est à une une revue qui met le dessin en valeur, que ce soit la bande dessinée, l'illustration, le dessin de presse, les décorateurs, les architectes, et ceci ou ça. Voilà.
Oui, c'est ça, c'est le dessin, pas forcément le dessin de bande dessinée, comme tu le dis, mais c'est vraiment le dessin sous toutes ses formes. Parce que ouais. je regardais ton site internet, par exemple, tu annonces l'exposition qui s'appelle « Le bijou dessiné », d'ailleurs, qui là est du dessin de très grande qualité, évidemment, mais du dessin d'artisanat, qui n'a rien à voir avec le dessin qu'on trouve en galerie ou qu'on peut acheter pour collectionner.
Après, on peut toujours collectionner des dessins de montres, hein, il y en a qui le font. Mais c'est vrai que l'idée, c'est que j'estime que... Moi, c'était un jour, je n'étais qu'avril de ça, et c'est vrai que le dessin, c'est le lien le plus direct entre ce qu'il y a au cerveau et la main. Quoi. C'est, après, le mec, tu pars d'une feuille blanche... Et tout d'un coup, il y a alors soit ton personnage fétiche qui apparaît, je ne sais pas, un Blueberry, je ne sais pas qui, ou c'est vraiment quelqu'un qui va créer un immeuble, dessiner pour faire un tissu, faire une robe, faire une bande dessinée, un dessin de presse en un trait d'humour. Moi, c'était voilà, tout ce qui est en lien avec le dessin, parce que je trouve que le dessin, est, même si l'ordinateur a un peu pris le pouvoir sur certains trucs, maintenant, techniquement, on arrive à faire des choses aussi bien par ordinateur que par la main. Je trouve que voilà, la notion d'artisanat, entre guillemets, du dessin qui va devenir un personnage, voilà, moi ça me fascine. Donc à partir de ce moment-là, en effet, je me suis dit, on va aller voir dans tous les domaines où le dessin a sa place. Et donc là, tu citais le coup du bijou dessiné. Évidemment, bah, le dessin, il y a beaucoup de bagues, ça part d'un dessin. Quoi. Et l'architecture, il y a des gars, à un moment donné, tu as des architectes qui font des lignes de fuite, ils commencent à dessiner des trucs et à un moment donné, ils vont construire un immeuble avec trois traits. Après, il y a des ingénieurs qui vont rentrer dedans et tout ça. Ou même pareil avec la BD, le mec qui va chercher, je sais pas, un gars comme Tardy, il va chercher son Adèle Blanc-Sec, qui va faire ses petits crayonnés et puis après, il va la formaliser en l'encrant. Mais donc, je pense que voilà, le dessin, pour moi, cette force-là, c'est qu'elle permet de développer son imaginaire déjà, parce qu'il y a tous ces gens-là dont j'admire le travail, et en plus, elle permet de créer des choses. Quoi, voilà. Donc, c'est ça qui m'a passionné.
Et surtout, ça permet, parce que je évidemment, on a la bande dessinée et les arts dessinés, donc si tu l'as appelé les arts dessinés, c'est qu'il y a une vraie différence. Mais quand on regarde les sommaires, c'est vraiment d'une très grande variété. Il y a des illustrateurs, beaucoup de choses, avec des illustrateurs jeunesse notamment. Et je me rappelle, on a fait un voyage ensemble au musée de Moulins et j'avais été estomaqué par la connaissance que tu avais de l'illustration jeunesse. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce sous-thème, j'allais dire, du dessin, qui est l'illustration jeunesse, que moi, je connais pas.
C'est vrai que c'est... Aujourd'hui, un illustrateur, il n'a pas 50 000 possibilités. Soit, en effet, il est dans... la presse souvent féminine. Bon, c'est vrai qu'après, il y a Nouvel Obs, Le Point, qui font appel à des dessinateurs pour des articles de fond ou des choses comme ça. Et après, c'est vrai qu'il y a un énorme pan de liberté qui est que la presse jeunesse, que les enjeux ne sont pas énormes. Bon, souvent, ils ne sont pas très bien payés et les tirages sont assez confidentiels la plupart du temps. Mais c'est vrai que c'est des espaces de liberté totale. Et donc, c'est vrai que c'est tout un monde qui, moi, me passionne. Bon, j'avoue que le fait d'avoir fait des BD d'avant-cal a fait que je n'ai pas pu suivre autant que je voulais toute la production, et c'est pour ça que ça me fait plaisir d'y revenir maintenant, parce que bon, j'ai quand même des auteurs fétiches comme Benjamin Lacombe, Anne Herbault, Nathalie Fortier, voilà, enfin tous ces gens-là que j'aime, bon, j'aimais déjà le travail, donc eux, je les avais suivis, puis après, il y a tout un pont de j'avais suivi, mais en diagonale. Et voilà, et je trouve qu'il y a une créativité incroyable, parce que c'est des endroits où on peut se permettre des couvertures un peu originales, des doubles pleines pages, des culs de bouteille, enfin voilà. Donc il y a toute une création, et en plus, ce qui me passionne, et on n'a pas évoqué tout à l'heure pour les arts dessinés, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment quelqu'un formalise une idée, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, je vais dire une bêtise, ça va être un auteur, on lui dit, tu traites Alzheimer, quoi. Ben, à un moment donné, t'as un auteur, il va imaginer un gars avec un cerveau, avec un petit nuage qui sort de la tête. Et je pense que c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le mec, ou l'insomnie, par exemple, André François, j'ai cette image-là d'André François, t'as l'insomnie, t'as un gars allongé dans un lit, et la tête, c'est une horloge. Et je trouve ça d'une force incroyable, où Savignac a gardé boutons, quoi, un truc de mec tout seul, il y a trois boutons, et tout est raconté. Ou un gars comme Flock, voilà, qui peut faire une affiche de cinéma, et il va résumer un film en une image. Donc ça, tout ça, ça me fascine. Et c'est vrai que le livre pour enfants, aujourd'hui, avec le talent des écrivains du pour enfants aussi, peut véhiculer énormément de choses. Il n'y a pas longtemps, Montreuil, où il y a énormément de choses. Qui, voilà, j'étais avec mon petit carnet, j'ai presque rempli un carnet de gens où je me dis, oh là, tiens, lui, j'avais oublié, il faut que je le fasse, ou tiens, lui, je ne le connais pas. Voilà, parce que je trouve que c'est absolument énorme comme travail. Même si dans l'absolu, je privilégierais en effet les gens qui font du dessin avec la main et non pas l'ordinateur.
Alors je suis heureux de te voir parce que tu as un projet donc qui s'appelle Les Arts Dessinés, qui est un projet d'ouverture, en tout cas de réouverture pour toi d'une galerie consacrée au dessin. Tu es associé avec la galerie Hubert Sibren, qui lui là c'est une galerie de bandes dessinées, de planches, qui organise des ventes aux enchères avec des albums, des planches, des figurines et tout ça. Mais avec eux, toi, tu vas ouvrir une galerie donc exclusivement dédiée au dessin. Tu peux nous dire comment ça s'est passé? Comment on passe d'une galerie de bande dessinée à une galerie de dessin? Est-ce que c'est concurrent? Et comment le projet s'est mis en route?
Moi, j'ai eu, en même temps que j'ouvrais, je débutais DBD donc en 98 ou 97, je sais plus. J'avais une galerie. J'avais déjà ouvert une galerie où j'avais exposé Butch, Manara, Mathieu Bonhomme, Bruno. Donc tout ça, c'est un univers que je connais. Il y a évidemment, on a évoqué rapidement, mais en effet, le copain d'Allemagne qui m'est présenté, son copain, donc pour les ventes aux enchères. Donc j'avais monté des ventes aux enchères qui s'appelaient des Illustrateurs à Paris, où j'avais fait aussi une vente de livres pour enfants avec des images à découper pour coller le catalogue. Enfin, on avait fait plein de trucs de créativité très rigolote. Et les ventes d'illustrateurs, elles étaient dans des petites boîtes avec chaque illustrateur avait le droit à sa petite fiche. Et donc c'était un monde qui m'était familier. C'est vrai que je l'avais quitté parce qu'à un moment donné, voilà, moi je suis pas voilà, je crache pas dessus, mais je suis pas un homme d'argent comme certains, et donc c'était pour mon obsession de faire plus de fric, avoir plus d'auteurs, machin. Ça commençait à me fatiguer. Et après, il y avait en effet des discussions de marchands de tapis qui appartenaient de plus en plus chez les auteurs. Et surtout, bande dessinée, un peu moins les autres, qui n'étaient pas suffisamment sollicités. Et donc, c'est vrai que quand j'ai remis en place les arts dessinés, il y a beaucoup d'auteurs avec qui j'avais travaillé ou que je connaissais par les illustrateurs, par les ventes aux enchères ou par la galerie, plus d'autres personnes, qui en effet n'avaient pas spécialement eu de point de chute depuis mon départ de galeriste. Voilà, je pense, Gérard Dubois a fait une expo chez Barbier, mais voilà. Un mec comme François Roca, maintenant, depuis, il est passé chez Bertie Brenn, mais était chez Barbier. Enfin, il y en a beaucoup qui ne sont nulle part. D'autres, certains ont explosé, comme Bruno, Mathieu Bonhomme avec Megan, et Bertie récemment avec pour Bruno. Donc voilà, donc j'avais, je commençais à tous les recroiser, parce que quand j'ai lancé le projet, évidemment, donc même si ça n'a pas été le cas, c'est quand même plus simple d'aller voir des gens dont tu connais bien le boulot pour les défendre plutôt qu'aller totalement d'inconnu, même si en effet, finalement, il y a énormément de gens avec qui, je pense par exemple à Mike Simon, que je connais depuis 30 ans, il m'a dit le jour, j'ai rien vu dans les arts dessinés depuis 5 ans. Je me suis dit, tiens, j'ai un peu envie de sortir justement de là et retravailler avec ces gens-là pour avoir le replaisir de défendre encore plus le dessin. Après, donc, sur ce, le temps passe. Ronan Lancelot, qui travaille pour Hubert Sibren, qui travaille aussi pour moi pour les arts dessinés des BD, me dit, mais tu sais que depuis que Maton a quitté Barbier Maton, enfin, la galerie Barbier Maton s'est séparée, il y a Barbier d'un côté et Maton de l'autre côté.
Ouais, ouais.
Il développe les illustrateurs, parce qu'il est des copains avec Roca, Avril et compagnie. Mais en même temps, nous, on est un peu des fois le cul entre deux chaises parce qu'on est plutôt bande dessinée qu'illustrateur. Donc, en gros, Alain Huberti aimerait bien développer un secteur illustration et dessin, et on trouverait bien que ça soit toi, quoi. Donc voilà, donc ça s'est fait comme ça, sans spécialement que ni l'un ni l'autre ne démarche l'autre. Enfin voilà, un jour Alain est venu vers moi, je dis voilà, moi je veux bien, à condition que ce soit vraiment deux activités séparées, que je sois le maître des lieux, entre guillemets, et que ça s'appelle la galerie des arts dessinés, non pas les arts dessinés, donc avec un autre logo. Pour justement marquer la différence, c'est pas spécialement la galerie des arts dessinés, parce qu'il y a des gens qui sont déjà en contrat chez d'autres gens, et j'avais pas envie de me retrouver en porte-à-faux.
Ouais, bien sûr. À faire des choses. Alors comment s'organise? Je crois qu'il y a deux espaces, avec un espace.
Alors du coup, c'est 85 mètres carrés. C'est un espace qui va être coupé en deux, enfin qui est coupé en deux naturellement. Et l'idée, voilà, on ne sait pas si à moyen terme ou à long terme on changera. L'idée, c'est de faire un auteur principal d'un côté qui est sur une expo de 3 semaines et sur la droite, sur la droite, ça dépend comment on rentre, mais enfin, en gros, ouais, l'espace droit, l'espace un peu découverte avec des jeunes auteurs ou des lancements de livres, ou des lancements d'albums ou je ne sais quoi, qui durera peut-être 15 jours. Voilà. Donc après, est-ce qu'à un moment donné, il y aura certaines expos où on prendra tout l'espace pour les auteurs? Ça va être le cas, je pense, pour Insider, parce qu'ils font des grands formats. Voilà, enfin, le principe, il est qu'en théorie, c'est un espace séparé en deux, en effet.
Alors, quels sont les auteurs qui vont ouvrir cette nouvelle galerie, sachant qu'elle ouvre le 11 janvier, c'est ça, l'inauguration de la galerie, c'est le 11 janvier.
Ben, moi, j'ai l'idée de départ était de dire je veux toucher quelqu'un qui touche tous les arts, c'est-à-dire la bande dessinée, l'illustrateur, enfin, qui est reconnu dans beaucoup d'arts, c'était Pat Andreac, un peintre d'origine hollandaise qui a beaucoup vécu en Argentine. Et parce que voilà, bah, par exemple, deux de ses œuvres sont dans la collection d'Hergé. C'est quelqu'un qui voulait faire de la bande dessinée au départ, qui est très cultivé en bande dessinée. C'est quelqu'un qui a une renommée internationale pour son travail. D'ailleurs, Blutch, beaucoup de gens disent que son travail, Blutch a beaucoup regardé. Bon, mais Blutch m'a dit que non, mais bon, c'était ses proches, le personnage avec des longues jambes et tout ça. Et donc voilà, je trouvais que c'était quelqu'un qui était un peu à la synthèse de tous les arts, et donc ça m'intéressait de me dire tiens, on ouvre avec lui. Et sur l'espace d'à côté, donc il y aura des dessins, pas spécialement qu'il a fait pour moi, mais comme je vais très régulièrement le voir, parce que j'ai un ami qui est pas loin de chez lui, donc je m'arrête souvent à son atelier. Et donc voilà, beaucoup d'œuvres sur papier, des très grands formats que j'adore. Et l'autre partie, ça va être Nicolas Debon, qui a sorti récemment Marathon. Oui. Dont on avait parlé dans DBD, donc j'aime beaucoup le travail. Il a fait le tour des géants, évidemment, je ne sais pas tous les titres en tête maintenant, et un truc sur la montagne, je ne sais plus le titre, l'enfer du vide, je crois, le vide, un truc comme ça. Et donc voilà, et je me trouvais que les deux, ça pouvait être sympa justement de montrer que d'un côté, on va avoir plutôt un peintre dessinateur, de l'autre, un auteur de bande dessinée, on va dire, qui est entre la bande dessinée classique et le roman graphique. Et voilà, donc c'est les deux ouvertures. Après, normalement, on va être suivi par Gérard Dubois, qui fait la couverture du Art Dessiné numéro 17, là, qui vient de sortir, qui est un illustrateur français qui est parti au Canada et qui il a fait sa copée là-bas, puis finalement a décidé de rester là-bas, qui est devenu pas une sommité, parce que je pense que ce n'est pas quelqu'un qui s'occupe de sa carrière comme il le devrait, mais qui est devenu un très, très grand illustrateur, respecté par beaucoup de monde. Mais c'est vrai qu'il n'est pas un grand communicant, donc ce n'est pas du genre à dire j'ai des médailles d'or toutes les années. Au comité d'illustration, mais c'est son cas. Et à côté, il y aura un auteur qui s'appelle Michel Casaramona, j'ai toujours du mal à le dire, qui est un affichiste zurichois, qui en gros est très connu dans le canton alémanique et pas tellement ailleurs, parce que comme la Suisse est un pays riche, les gens n'ont pas besoin de s'émigrer pour gagner leur vie, qui lui m'avait été conseillé par Laurent Durieux, qui est l'affichiste que vous connaissez, qui a fait les couleurs de Black et Mortimer, ouais. Et qui fait des affiches, on dit alternatives, c'est-à-dire qu'il parle, il fait une fausse affiche d'Indiana Jones ou des Dents de la Mer, et qui m'est parlé de cet artiste-là, et donc j'ai profité d'un voyage à Bâle pour aller voir l'expo de Posy Simons, je le prononce jamais bien, pour aller à Zurich, le rencontrer dans son atelier. On a fait un article dans les arts dessinés, et comme c'est quelqu'un que j'aime bien le travail et que l'ouverture de la galerie était là, j'ai proposé de le faire, une expo.
Ce qui est intéressant dans les deux artistes qui vont ouvrir, c'est qu'il y a, il y a un artiste, on va dire, c'est pas un dessin classique, mais c'est un dessin qu'on reconnaît ou un dessin identifiable, qui est Nicolas Debon. Et ensuite, ouais. Pat Andrea, c'est un dessin plus radical.
Ouais, j'avoue que c'est pas des notions que je dirais comme ça, mais moi, je sais pas, voilà. J'ai ma force et ma faiblesse. Enfin, moi, je dirais que c'est une force, mais ma faiblesse vis-à-vis du monde extérieur, on va dire, c'est que je suis capable d'aimer beaucoup de choses très, très disparates. Moi, je peux autant être admiratif devant le boulot d'un Philippe Franck en bande dessinée que du Pat Andrea ou Cruciforme en illustration, qui va être, ou Blex Bolex pour être peut-être plus simple. Et en bande dessinée, c'est pareil. Donc, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, moi, je ne vois pas de radicalité spécialement. Moi, je vois du talent. Après, c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes recherches. Il y en a un qui va être dans la narration pure parce qu'il raconte une histoire. Donc, il faut quand même qu'on reconnaisse les personnages. L'autre qui va être plus un travail de plasticien, il va rechercher quelque chose de plus beau. Enfin, on va dire, voilà, il sait que ça va être exposé, vendu. Donc, quelque part, il va rechercher une plasticité qui n'est pas la même.
Est-ce que dans le projet de la galerie, il y a aussi l'idée d'accompagner des artistes sur le long terme, de les aider à développer leur carrière, leur travail? Parce que tu disais tout à l'heure de cet artiste qui n'a pas forcément le temps de s'occuper de sa carrière. Est-ce qu'il y a aussi ce projet-là dans la galerie?
Évidemment, de toute façon, je crois que quand on commence ce genre de relation, c'est comme un mariage, on aimerait que ce soit pour la vie. parce que c'est vrai que dans la base, t'aimes quand même un auteur, tu vas le voir, t'as envie de le défendre. Après, je dirais que chacun a son rythme de réflexion par rapport à ça. Voilà, il y a des auteurs qui tout de suite vont dire ah bah, tu veux bosser à long terme, tu me salaries, autrement je fais ce que je veux, je suis un homme libre. Il y en a d'autres, par exemple, on a un projet de faire une expo avec Mislo, dont j'aime beaucoup le travail, qui lui va dire ah bah, moi, de toute façon, je suis venu à Paris il y a 5 ans pour faire une expo dans une galerie, donc voilà, vous me proposez exactement ce que j'avais prévu de faire. Et donc, par conséquent, lui, il est plutôt à l'écoute de dire bah, voilà, moi, je veux bosser la main dans la boue, vous accompagner, monter les prix, patati patata. Il y en a d'autres voilà, qui vont dire bah, écoute, on fait un one shot, on verra bien ce qui se passe. Voilà, moi, je suis là-dessus. Je n'ai pas, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, la notion de possession n'est pas un truc qui me plaît. Voilà, je suis un peu comme Georges Brassens, quoi. Ne gravons pas nos noms en bas de la parchemin. Mais par contre, c'est vrai que malgré mon caractère de cochon et pas toujours ma disponibilité, il se trouve que j'ai des gens que voilà, ça fait 30 ans que je connais, que je côtoie et qui ça passe super bien. Et donc, je me dis que bon, finalement, je suis peut-être pas un si mauvais fond que ça. Donc, je pense que techniquement, ça serait bien de pouvoir les accompagner. C'est vrai que l'intérêt d'associer Cuberti Brenn, c'est qu'en effet, eux, ils ont déjà une structure. Moi, c'est vrai que je vais être délaissé de tout ce côté administratif, machin, que moi, prend du temps et que j'aurais pas parce que justement, j'ai des arts dessinés, des BD, immanquables à gérer. Et surtout, voilà, ils ont en effet la volonté, ce ne serait pas mon cas naturel d'aller dans des salons, faire Art Paris, la FIAC, des choses comme ça, pour continuer à développer ces auteurs. Donc voilà, donc c'est vrai qu'à fur et à mesure, j'espère qu'on montera un petit festival de l'illustration à Bruxelles, j'espère qu'on suivra des auteurs, j'espère qu'on les fera grandir et aller dans des grandes foires. Voilà, c'est évident que bah, je crois que le plaisir est celui-là. Moi, je dis toujours Quand on est doué, ce qui est le cas des gens avec qui je travaille, tu as toujours envie de les amener le plus haut possible. Tu as deux choix. Soit tu es. C'est comme quand tu es footballeur. Soit tu es très bon à Auxerre et tu es content parce que tu as ta préservé au Macumba du coin. Soit à un moment donné, tu vas à PSG ou ailleurs et tu vas te frotter à Neymar et Messi. Et bon, tu vas peut-être vivre des émotions devant 75 000 spectateurs où tu en avais 15 000 à Auxerre. Voilà, donc je pense que j'ai un œil. Je n'ai pas spécialement ce côté « je suis premier, je vais être machin, tu vois, là, tu t'es vu ». Je pense que j'ai une anecdote très rigolote à ce sujet-là, je reviendrai après là-dessus. Donc voilà, je suis plutôt moi à voir des gens, voir comment ils évoluent, comment ils travaillent. À partir d'un certain moment, je me dis « tiens, le mec, il n'est pas en train de pomper un tel, il a vraiment son univers à lui, il a son intelligence ». Par exemple, je sais pas, récemment, il y a Hugo Bienvenue… où j'ai mis presque 2 ans avant de commencer à aimer son travail. Et maintenant, je suis devenu un vrai fan au point qu'on va faire un hors-série. Et puis voilà, donc je l'ai rencontré. Je lui ai dit, ouais, bah, tiens, moi, j'ai mis du temps à aimer ton travail, mais maintenant, c'est vrai que je le trouve exceptionnel. Et donc, pour revenir à mon anecdote précédente, un jour, je me baladais à une vente aux enchères d'un confrère, on va dire. Je crois que c'était Buret, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'était lui. Et il y a un monsieur qui vient me voir, il me dit, ah, monsieur Bossert, je vais juste vous dire un truc, je vous aime pas parce que je vous trouve antipathique, je vous ai le droit. Et, mais par contre, je dois reconnaître que dans votre galerie, vous avez amené les premiers Mathieu Bonhomme, Bruno, Vouch, Pétillon, Rocard, voilà, Mornay, j'en passe. Et donc, c'est vrai que c'était assez marrant. Moi, je ne l'avais pas analysé comme ça, quoi. Je l'ai vraiment fait parce que ces mecs-là m'avaient plu et j'aimais leur travail. Mais c'était assez marrant de ce regard d'extérieur qui disait, voilà, vous êtes en gros un sale con, mais bon, je reconnais un peu le talent d'avoir découvert des mecs et les avoir lancés, donc ça m'a plutôt fait rire.
Et est-ce que dans la galerie, il y aura quelquefois des choses patrimoniales, des dessinateurs, bon, des dessinateurs morts ou des dessinateurs du passé qui pourraient rentrer dans ton projet?
C'est évident qu'il y a des mecs, je sais pas, Steinberg, j'aimerais bien, mais je pense que ça va être compliqué. C'est vrai que là, je discutais avec Alain justement, en disant comme ils avaient déjà bossé avec lui, avec Dubout. C'est vrai que j'aimerais bien faire une expo autour de Dubout. Moi, c'est vrai que je chine pas mal de dessins anciens, donc je désespère pas de me dire un jour, on fera une expo des dessins anciens que je peux trouver dans des opus et compagnie. Après, voilà, il n'y a pas spécialement de lieu qui les expose. Il y a Michel Lagarde qui fait un peu ce travail-là, mais il n'y en a pas tellement. Ouais, dans l'absolu, oui, mais après, il y a tellement de travail déjà à faire avec les vivants. Donc, voilà, c'est pas mon objectif premier. Après, c'est vrai que si on peut s'en faire une ou deux par an, ça serait bien.
J'ai une autre question, une question très 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 pratique. Mm-hmm. Combien le prix d'un dessin dans une galerie, ça se situe entre combien et combien?
Voilà, il n'y a aucune logique, hein. Ça dépend avec qui tu travailles. C'est vrai que par exemple, quelqu'un comme Pat Andrea qui a 30 ans ou 50 ans de carrière, peut-être 50, bah voilà, le monde des dessins, il va être entre 2500 et 5000 euros, on va dire. Ses grands formats vont être à 15 000. Voilà, Nicolas Debon, ça va être entre 300 et 800 euros, quelque chose comme ça, quoi. Après, ça, Après, voilà, tu vas prendre une planche de Bilal, ça vaut 50 000 euros, 100 000, 200 000, selon la qualité. Il n'y a pas de logique pure et dure. Après, tu vois, par exemple, je sors de chez Tardy. C'est vrai qu'on discutait un peu de ça, et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des gens comme lui qui ne sont pas spécialement occupés de leur code, donc la code s'est faite sans eux, on va dire. D'autres qui sont plus soucieux, qui réfléchissent à ce qu'ils doivent mettre sur le marché, pas de marché, qui créent leur code comme ça ou pas, parce que c'est pas parce que tu fais gaffe que tu vends spécialement. Après, c'est quand même des métiers à long terme, quoi. Donc, c'est vrai que t'es pas, il y a des gens qui sont aussi à la mode à un instant T, que maintenant tout le monde s'en fout. Moi, par exemple, quand j'ai débuté, des gars comme Saint-Auban étaient encore collectionnés, un mec comme Machereau l'était, puis après, il n'a plus été du tout, puis il est redevenu. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de, c'est pas évident, voilà, des mecs comme Beuville, Gusboffa, il y a très peu de gens, voilà, les rares illustrateurs ou même Savignac, des gens comme ça, ce sont pas des gens qui valent des fortunes, alors que c'est vrai que peut-être Sampé a mieux géré tout ça parce qu'il avait une galerie. Donc après je dirais que ça dépend beaucoup de la stratégie entre guillemets, enfin la réflexion qu'a un auteur par rapport à la vérité de ses originaux, déjà. Après, le retour, c'est le collectionneur, est-ce qu'il y en a ou pas. Et trois, c'est à un moment donné, il y a des collectionneurs, beaucoup de collectionneurs, parce qu'à un moment donné, un dessinateur, par définition, ça dessine. Mmh. Et donc, il y a vite du matos, quoi. Je sais pas, pour un exemple du dernier Tardy, hein, 120 pages, bon, le mec, il a pondu dans 2 ans 120 pages. Donc, tu as 120 œuvres d'art potentielles, tu as plein de peintres, ils font 4 toiles par an. Hein. Toutes les planches, je parle en BD, mais en illustrateur, ça ne vaut pas. Il y a toutes les planches ne se valent pas, tous les dessins ne se valent pas. Il y a aussi le pédigré, il y a l'historique. Je parle du style qui va faire une couverture pour Simenon, elle vaudra sûrement plus cher qu'une couverture qui n'est pas pour Simenon. Enfin, après, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, qui font que voilà, les prix peuvent varier. On va dire de, moi, je pense qu'on aura des prix moyens chez moi entre 300 euros et 15 000, voilà, avec une grosse moyenne entre 3 et 5 000 euros.
Enfin, on peut se faire plaisir à des prix raisonnables.
Oui, voilà. C'est vrai qu'il y a le défaut avec les ventes aux enchères, j'en ai fait partie. On parle toujours des records, nana, machin, ceci ou cela. Là, par exemple, le week-end dernier, j'ai acheté des dessins d'une femme qui est devenue photographe, des dessins d'enfants. J'ai payé 10 euros, ils sont sublimes. Moi, je préfère quelqu'un qui mette une boîte de chocolat découpée et qu'elle l'encadre dans un petit cadre et qu'elle mette dans son salon que plutôt qu'il y ait un mur vide. Parce que déjà, j'aime pas les murs vides, mais je trouve qu'au moins, il y a au moins la notion de vouloir décorer. Après, qu'elle le fasse avec un poster, une photocopie, un original, voilà, moi, je suis porté par Eugène, parce que j'ai toujours aimé ça. Et c'est vrai que quand je vois, là, on en parlait avec un copain l'autre jour, quand je vois des collectionneurs qui font des photocopies, qui mettent sur leur mur, moi, ça m'irrisse le poil. Même si je peux comprendre, ils vont dire, ah ouais, mais si j'ai un dégât des eaux, si ça brûle, tout est à la banque. Ouais, bon, bah écoute, vieux, tu vis qu'une fois. Ouais, et ouais. Donc voilà, donc c'est vrai que j'estime que voilà, l'idée, je sais que j'avais discuté avec un mec qui est animateur radio une fois, il m'a dit, ah ouais, mais vous collectionnez, vous avez beaucoup d'argent. Je dis, bah allez-y, on va jouer carte sur table, vous gagnez combien, je gagne combien. Et il se trouvait qu'il gagnait à peu près 4 fois ce que je gagnais. Je lui dis, moi, vous avez combien d'œuvres là? Il me dit, moi, j'en ai qu'une, mais vous savez, ça vaut cher. Enfin, en gros, acheter de l'art, ça vaut cher. J'ai dit, écoutez, moi, j'en ai peut-être 1000, et voilà, je ne suis pas plus riche que vous, je n'ai pas acheté parce qu'on peut trouver des choses pas chères, on peut acheter des gens. Par exemple, quand j'étais à Art Paris, il y a un gars qui me dit, bah, tiens, monsieur Bosser, vous ne devez plus souvenir de moi. En effet, je ne me souvenais plus. Il m'a dit, bah, écoutez, j'ai acheté ma première planche de bande dessinée chez vous. C'était Mathieu Bonhomme à l'époque. J'avais acheté 400 euros. Je trouvais ça hyper cher. Bon, maintenant, elle vaut en gros 10 fois plus, quoi. Donc, voilà. Donc, après, il y a des gens avec qui, entre guillemets, vous avez parié. Mais moi, pour moi, c'est pas parié. Vous achetez d'abord des choses qui vous plaisent.
Ah ouais, tout à fait.
Et après, il y a des gens qui vont avec un autre état d'esprit. Mais je pense qu'à partir du moment où on achète avec son cœur, ses goûts, après, les goûts, ils évoluent. Il y a des choses qu'on a aimées il y a 30 ans, on n'aime plus maintenant, et des choses inversement. Et donc, voilà. Donc, mais après, on peut s'acheter de l'art. Tu vas chiner demain, tu peux acheter des très beaux dessins, 500, 200, 300, 400 euros. Tu n'es pas obligé non plus de te ruiner pour avoir des choses.
Ah ouais, tout à fait.
Et puis après, ouais, tu peux acheter une couverture de disque qui te plaît, l'encadrer, parce que moi, je pense récemment, il y avait la couverture de Blin pour Arthur H. Ouais, tu peux très bien t'acheter ça, tu te l'encadres et puis tu as ton œuvre d'art au mur. Voilà, je n'ai pas obligé d'acheter. Moi, c'est vrai que j'aime le voir le trait d'auteur. Je ne sais pas acheter une sérigraphie ou une reproduction, parce que ça ne me plaît pas. Donc, mais après, Et je pense qu'on peut tout à fait avoir tout type de prix et se faire plaisir.
Mais Frédéric, le temps passe, le temps passe. On aurait pu passer encore beaucoup de temps à parler de tout ça. Mais là, l'émission est presque finie. Je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup d'avoir parlé de ta passion du dessin et donc de cette galerie qui va ouvrir. Je rappelle le nom, c'est la Galerie des Arts Dessinés. L'adresse, c'est 1921 rue Chapon, dans le 3e à Paris. Et l'inauguration, c'est le 11 janvier. Donc, on pourra tous venir voir les deux premières expositions à partir du 12 janvier.
Exactement. You're welcome, comme diraient les Anglais.
Je te remercie et je te dis à très bientôt. Pardon.
À bientôt, bonne fin de journée.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.